aussi notre bill d'hydro nous coûtait plus cher. Et là, je veux pas lancer de débat.
C'est pas une idée qui serait populaire quand même.
Non, mais... c'est pas
une idée. On attend les commentaires sous la publication.
Bon, salut, c'était tout pour aujourd'hui, tout le monde.
Effectivement.
Bienvenue à Votre tweet est important pour nous. C'est la série Balado où on répond aux questions que vous nous posez par l'entremise des médias sociaux. Autour de cette table, il y a celles et ceux qui vous répondent. Gabriel Leblanc.
Salut.
Pierre-Alexandre Buisson.
Bonjour.
Le dernier non le moindre, Jonathan Côté.
Allô.
Aujourd'hui, deux mots qui font réagir partout sur la planète. Transition énergétique. Évidemment, ça fait jaser. Beaucoup de commentaires là-dessus. Pour en parler avec nous, un conseiller expert environnement dans l'équipe développement durable, M. Christian Turpin.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Et en quoi est-ce que... Mais comment est-ce qu'on pourrait résumer votre travail, M. Turpin?
Bien, le travail est très, très varié. Donc, il y a tous les éléments qu'on peut apporter à l'entreprise pour améliorer notre performance en développement durable. Donc, c'est des éléments que les membres de mon équipe là, contribuent au quotidien. Donc, tous les éléments environnementaux, sociaux, de gouvernance. Donc, c'est des éléments sur lesquels on travaille au quotidien.
Et vous êtes à l'aise avec l'idée de transition énergétique, ce concept-là, tout à fait,
oui, oui, absolument.
Au quotidien.
Et il
oui.
se lève le matin pour la transition énergétique, absolument. Je pense, Christian.
C'est, oui, effectivement.
Donc, le concept de l'émission, on vous soumet des commentaires des internautes et je pense que Gabriel en a un pour vous.
Okay. En fait, Francis l'a bien expliqué, la transition énergétique, c'est compliqué. On ne sait pas ce que ça mange en hiver nécessairement. Puis Dani nous avait laissé un commentaire sur YouTube il y a quelques mois. C'est assez varié, donc suis-moi jusqu'au bout.
Okay.
Il dit, pour 2025, on essaie de doubler notre consommation sans gaspiller. Plus d'énergie, plus de création, en autant qu'on peut se livrer l'électricité et à bon coût. Il faut augmenter les exportations aussi. Je fais ma thèse sur les moyens d'exportation vers l'Europe. Assez difficile de faire de façon efficace, mais on va y être. Donc là-dedans, je vois beaucoup, beaucoup de choses. On parle de mieux consommer, on parle d'exporter, on parle de plus produire. Il y a plein de choses là-dedans. Qu'est-ce qui fait partie de la transition énergétique et qu'est-ce qui n'en fait pas partie?
Bien, tout... Dans le fond, la transition énergétique, ce que c'est de partir d'une situation, de la situation actuelle, hein, d'une économie qui repose encore en grande partie sur l'utilisation d'énergie de sources fossiles vers un objectif où l'énergie qui va être consommée par les différentes populations va être davantage de sources renouvelables. Donc, c'est consommer mieux l'énergie qu'on a, et c'est aussi consommer moins. C'est d'avoir une meilleure consommation, pas juste au niveau de l'énergie, mais au niveau de tous nos biens de consommation au quotidien.
Mais là, tu dis, OK, passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, mais on n'est pas, nous, ici au Québec, à 99,4% d'énergie renouvelable?
Oui, tu as raison. C'est vrai au niveau de nos approvisionnements en électricité, mais dans notre société, vous et moi avons des voitures, généralement.
La mienne est électrique.
Bon, félicitations. ceux qui n'ont pas encore fait la transition vers le véhicule électrique, ben consomment de l'essence. Il y a encore des résidences qui sont chauffées au combustible fossile. Au Québec, c'est beaucoup moins le cas que dans d'autres provinces canadiennes. Au niveau industriel, il y a encore beaucoup de consommation de combustible fossile au niveau des procédés industriels aussi. Donc oui, il y a quand même un grand besoin de transition, mais tu fais bien de le souligner. Dans les défis que nous avons au Québec, effectivement, c'est de convertir l'économie qui repose encore en grande partie sur les combustibles fossiles. Mais on a un bon bout de chemin de fait dans la mesure où notre électricité, comme tu le mentionnes, est d'origine renouvelable. Donc, oui, pour électrifier, pour remplacer les autres sources énergétiques dans la société québécoise, ben on part avec quand même un pas d'avance. Si on se compare avec d'autres régions dans le monde qui, eux, ben ils ont à la fois besoin de faire cette transition-là au niveau des industries, au niveau du transport, mais aussi au niveau de leur source de production d'électricité. Donc, nous, on a un bout de chemin de fait. Mais on a quand même encore beaucoup de travail à faire.
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Québec, on consomme énormément comme ça?
Bien, il y a le climat. Évidemment, lorsqu'il fait plus froid en hiver, bien, on va consommer davantage d'énergie pour se chauffer. L'autre élément, c'est beaucoup une question de sensibilité des individus. Et là, on revient à la question sensible qui est le tarif, le coût de cette électricité-là. Tu sais, ce qui n'est pas dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, moi inclus, ce qui n'est pas cher n'a pas la même valeur.
Hein?
Donc, voilà. Si les individus, si on avait une, une, si notre bill d'hydro nous coûtait plus cher. Et là, je ne veux pas lancer de débat.
C'est pas une idée très populaire, quand même.
Non, c'est pas... On attend les commentaires sous la publication. Ils vont te ramasser.
Tout le monde.
Effectivement, tout à fait. Donc, c'est la question. Tout à l'heure, on parlait de la carotte et du bâton. Bien, c'est sûr que les spécialistes en énergie du secteur, ben, souvent, c'est un élément qui ramène. Et je me souviens, pour avoir côtoyé des Européens dans des rencontres... qui avait lieu ici, tu sais, eux en revenaient pas de voir la façon dont on consommait notre énergie, tu sais, la façon dont on ne faisait pas attention.
Ils ne pas revenir de notre tarification aussi, parce que là-bas, c'est beaucoup plus cher là, quand tu regardes l'électricité.
Ils n'en revenaient pas du prix de l'Internet non plus.
Mais en ce sens-là, Christian, je me fais souvent la réflexion, là, pour moi, c'est un peu comme l'eau. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, quand on se brossait les dents, on fermait pas nécessairement le robinet. L'eau coulait, puis c'était ça, parce qu'on a de l'eau au Québec. Puis, tu sais, je pense que l'électricité, ça a été ça aussi pendant un long bout. On en a de l'électricité, elle est pas chère.
Elle est abondante.
Elle est abondante. Puis là, on arrive vraiment dans un changement de paradigme. Fait que je pense que peut-être que nos enfants, ou tu sais, dans 10 ans, dans 15 ans, ben ça va juste être plus commun là, de faire particulièrement attention à l'énergie.
Espérons-le.
Est-ce qu'un phénomène comme on flash nos lumières avec Jean-Marc Parent serait possible de nos jours?
Mais ben, il faudrait trouver des concours comme ça, des façons là, d'amener...
Mais si tu flashes une lumière qui était déjà allumée, techniquement, tu sauves de l'électricité.
Ben moi, j'ai déjà une tante qui m'a dit que ça coûte 25 cents à chaque fois. C'était pas vrai, mais c'était
mais c'est vrai que nos parents ils ont un peu cette mentalité-là. Ça coûte plus cher à chaque fois que tu rallumes. C'est bizarre. C'est mystérieux.
J'ai un Joe qui nous a interpellés sur Twitter et qui nous demandait pourquoi une transition, vers quoi? On est déjà parmi les plus green au monde côté énergétique. Ça recoupe ce qu'énormément de gens nous disent déjà sur les médias sociaux. Pourquoi on ferait des efforts? Parce que notre électricité est propre.
Bien, le pourquoi la transition énergétique, c'est la raison principale, c'est pour faire une lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est une situation qui arrive petit à petit. T'sais, on n'arrive pas du jour au lendemain dans une situation de crise climatique catastrophique. C'est quelque chose qui se fait sur quand même du long terme, le réchauffement climatique. Donc, oui, c'est vrai que on est green au niveau de la production d'électricité, mais globalement, si on regarde notre consommation d'énergie, alors pas juste de l'électricité, mais notre consommation d'énergie globalement au Québec, ben il y a à peu près 50 % qui provient, oui, d'électricité de sources renouvelables, mais il y a encore beaucoup de consommation de combustibles fossiles. Donc, il y a quand même un grand besoin de faire des efforts pour la transition énergétique.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas juste au niveau individuel de ce que je comprends. Là, j'ai l'impression que souvent, quand on parle de transition énergétique, les gens ont l'impression que, eux, ça va les pénaliser ou leur rajouter encore là, un fardeau sur les épaules. Mais la transition énergétique, c'est d'une part les individus, d'autre part les entreprises. Qui d'autre est impliqué là-dedans?
Bien, les gouvernements. Les gouvernements, tant au niveau fédéral, provincial et municipal. Souvent, souvent, on aime mieux y aller avec une approche de carotte que de bâton. Donc, les gouvernements, avec leur pouvoir réglementaire, vont mettre des programmes incitatifs. Hein. On aime mieux amener les gens vers une transition énergétique avec des incitatifs. Un exemple que plusieurs gens connaissent, c'est l'incitatif au niveau de l'achat d'un véhicule électrique. Donc, il y a des subventions qu'on a du gouvernement pour nous aider à faire le pas en avant vers des solutions qui émettent moins directement de gaz à effet de serre.
Et justement, là-dessus, Jonathan, une question à soumettre aussi.
Bien, en fait, quelqu'un nous parle justement de sauver de l'énergie. Puis en fait, ce qui comprend pas, puis il y en a beaucoup de gens qui nous reviennent avec ça, c'est on nous dit qu'on va manquer d'électricité, on nous dit qu'on a besoin de plus d'électricité, mais on nous dit en même temps, prenez des autos électriques qui, elles, vont consommer plus d'électricité. Fait que les gens voient une contradiction là-dedans et le Pierre nous dit, bien, pour économiser et sauver l'électricité, je fais ma part, je conduis une auto à essence. C'est une bonne approche, ça, pour la transition énergétique?
Et est-ce que c'est une bonne blague?
Oui, c'est une bonne... Enfin, est-ce que c'est une bonne blague? Je le sais pas, mais il y a une compréhension de ce que c'est exactement la transition énergétique. Alors, non, la solution de continuer de conduire un véhicule à essence plutôt qu'électrique pour nous aider dans la transition énergétique, c'est clairement pas une bonne solution. Donc, mais la question à savoir, on dit qu'on va manquer d'électricité. Effectivement, tu sais, dans les prévisions pour les 10 prochaines années au niveau des besoins en approvisionnement, en énergie, en électricité, effectivement, la demande est très croissante et est importante. D'où le besoin d'ajouter des nouvelles sources de production d'électricité. On l'a vu dans notre plan d'action 2035, mais c'est important. Tu sais, il y a une priorisation. En fait, on fait tout ça en même temps, mais faut d'abord, on le dit souvent, l'énergie qui est la moins polluante, c'est l'énergie qu'on évite de consommer. Mmh. Donc, il faut réduire notre consommation, faire davantage d'efficacité énergétique et la consommer dans la mesure du possible au meilleur moment, on le sait. En hiver, au Québec, il fait froid. Et durant ces périodes de pointe-là, ben c'est là où on est particulièrement à court de puissance, à court d'énergie, et c'est là où il faut faire aussi des efforts pour
les
déplacer.
Pointes.
Exactement.
C'est pour ça qu'on a des programmes comme la tarification dynamique, comme ILO, où exact. On va encore là arriver avec la carotte pour récompenser les clients qui vont déplacer une consommation à l'extérieur des heures de pointe.
Absolument.
Je vais te poser la question à laquelle tout le monde pense, mais que personne n'ose poser.
Oh, OK. La question qui tue.
Oui, on parle beaucoup de la carotte, ça serait quoi le bâton?
Bien, il y a différents. Bien, il y a déjà des mécanismes de bâton, disons, au niveau industriel. OK? Au niveau québécois, au niveau de la province de Québec, on a ce qu'on appelle un système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre. Donc, ou communément appelé la bourse du carbone. Donc, les grands émetteurs, les plus grands émetteurs industriels au Québec sont assujettis à cette réglementation-là. Et ils ont un plafonnement. Une quantité maximale de gaz à effet de serre qu'ils peuvent émettre annuellement. Et chaque année, ils doivent acheter des droits d'émission pour amener à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Le bâton, c'est le coût pour eux autres d'émettre ces carbone.
Oui,
si on
peut dire, effectivement. Et autre exemple de bâton qui n'est pas une solution qui a été privilégiée ici, mais exemple, un des éléments qu'on voit, puis souvent on perçoit le véhicule électrique, on revient souvent à cet exemple-là parce qu'il est facile aussi à comprendre. T'sais, on voit que l'électrification des transports comme étant la solution ultime. Bien, c'est une solution, ça fait partie de la solution, l'électrification des transports, mais ce ne serait pas une bonne idée de remplacer 100 % du parc. Mm-hmm. L'objectif, 100 % du parc vers des véhicules électriques, l'objectif, c'est également de mieux se transporter. Là, on parle de transport.
Donc, transport actif, transport en commun,
exactement.
Toutes ces choses-là.
C'est un bouquet de solutions. Là.
C'est un bouquet de solutions.
On en parlait dans notre épisode, justement, sur l'électrification des transports, qui est disponible également. En fait, c'est ça, France Lampron nous disait, ça fait partie des solutions, mais ce n'est pas la solution. Donc, il faut arrêter de penser que c'est une chose qui va faire en sorte qu'on va entamer la transition énergétique.
C'est vrai, souvent les gens nous disent « Ah non, c'est pas ça qui va régler le problème en parlant d'une chose ou d'une autre, mais ça nous prend un paquet de solutions. »
Exactement.
Mais d'ailleurs, transition énergétique, on en parlait, pour moi, il y a deux grands volets, là, en fait. Mieux consommer, produire plus. En ce sens-là, il y a Gérard qui nous a écrit sur Twitter, il a repartagé un article de Radio-Canada qui disait qu'Hydro-Québec allait bâtir deux nouvelles centrales d'ici 2035, puis il disait « Si on doit décarboner le Québec, en fait, c'est les transports qui sont prioritaires. » Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ben oui, effectivement. Lorsqu'on regarde le bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour le Québec, les transports c'est un des secteurs qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, faut trouver des solutions pour décarboner le transport.
Mais là, c'est pas juste
À propos de la décarbonation. Là, je vais prendre le crachoir pour parler au nom de plein de commentaires qu'on reçoit de plein de gens. Une espèce de courant de pensée qui revient vraiment beaucoup sur X ou Twitter, anciennement Twitter. Les gens nous disent, le carbone, notre corps humain, il y a du carbone dedans. L'univers est composé de carbone. Pourquoi faut décarboner? Ça fait pas de sens.
Bien, en fait, effectivement, on a sur la planète Terre, là on va y aller dans les grands concepts, tu sais, oui, il y a du carbone et on n'en crée pas, on n'en invente pas. L'enjeu, c'est qu'une grande partie de ce carbone-là, lorsqu'on parle de combustible fossile, c'est qu'il était situé dans des sous-terres, à des endroits où ce carbone-là était très bien là depuis des millions d'années. Donc, c'est l'utilisation de ces combustibles fossiles-là que l'on relâche dans l'atmosphère et qui amène l'effet de serre. Donc, c'est ce qui amène un réchauffement, les changements climatiques.
Donc, le carbone, on l'aime, mais quand il est dans le sous-sol, c'est ça?
Bien, en grande partie, oui. Celui qui était là depuis des millions d'années, idéalement, il devrait rester
on
là.
On laisse dormir.
On devrait le laisser là encore pour des millions et des milliards d'années.
On peut comparer ça à un tanguy qui sort jamais de sa chambre dans le demi-sous-sol.
Ouais, ben lui, je pense qu'on souhaiterait qu'il sorte davantage.
Christian, quand on parle de captation du carbone, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ben, ça peut dire différentes choses. Actuellement, t'sais, dans un monde idéal, on serait en mesure... Ben, premièrement, avant d'essayer de le capter... là. Ça, c'est investir notre énergie au mauvais endroit. Okay? Okay. Éventuellement, oui, tant mieux si on réussit à le capter de l'atmosphère et à le remettre dans la croûte terrestre, tant mieux. Mais idéalement, c'est de mettre les efforts pour éviter d'émettre ce carbone-là dans l'atmosphère. D'accord. Ça devrait être notre priorité numéro un.
C'est comme si des gens essayaient de remettre la pâte à dents dans le tube. Là.
Exactement. Et la façon de remettre la pâte à dents dans le tube, actuellement, on n'a pas trouvé d'excellente façon à coût abordable. Parce que oui, il existe des projets pilotes, il existe des endroits, des projets de captage du carbone dans l'atmosphère pour la séquestration, pour le remettre ailleurs que dans l'atmosphère. Mais ces solutions-là, on n'est pas encore en mesure d'en capter de très grands volumes. Rien à comparer à ce qu'on émet quotidiennement au niveau de la planète. Et deuxièmement, bien, ces technologies-là sont extrêmement coûteuses. Donc, oui, je pense qu'on vit dans l'espoir que d'ici 2050, on va réussir à développer des technologies qui vont amener la possibilité de séquestrer ce carbone-là et le neutraliser, si on peut dire. Mais faut pas se fier juste à ça.
Je veux pas dire que t'es stressant, là, mais il est du trop tard. on entend ça aussi beaucoup sur les réseaux sociaux.
Oui, effectivement. On aurait dû commencer bien avant, effectivement. Mais on n'a pas d'autre choix comme humanité que de faire des efforts pour réduire nos émissions. Je pense que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter nos émissions dans l'atmosphère, tu sais, d'ici 2050, dans l'espoir de limiter justement le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés C. Bon, on se dit chez nous, tu sais, demain, aujourd'hui, on sort dehors qu'il fasse 1,5 degrés Celsius de plus.
Ça, on va être bien.
Au Québec, on serait content, là.
On est content, mais ça, c'est une température moyenne mondiale. Il y a des endroits où ce réchauffement-là est beaucoup plus prononcé.
Cette année, oui.
Exactement. Tu sais, comme on le voit dans les parties plus nordiques. Et c'est pas juste le réchauffement lui-même qui est problématique, c'est toutes les conséquences. Hein, c'est les événements météo extrêmes que ça entraîne. On l'a vu cette année, 2023. Les feux de forêt, ça a été en Abitibi. Moi, je suis originaire de l'Abitibi. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs régions, l'Abitibi, oui. La Côte-Nord, territoire de la baie James.
Des feux de forêt dans le nord en même temps que des inondations dans le sud du Québec.
Exactement. On continue d'émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'on en émet aujourd'hui. Puis, tu sais, nous, on est une société industrialisée. Ça fait longtemps qu'on vit dans notre confort. Et on en émet depuis quand même un certain temps. Mais il y a plein de pays où les pays des économies émergentes, il y a plusieurs pays où la population n'a même pas encore accès à de l'électricité. T'sais, nous, on a de la difficulté à imaginer ça, mais les autres pays également veulent rehausser leur niveau de prospérité. Et actuellement, le plus facile, c'est en utilisant des combustibles fossiles. Donc, tu sais, il y a une contribution globale, mais il faut...
Ils ont donc la chance de le faire comme du monde dès le début.
Ils auraient cette chance-là.
Mais ça coûte plus cher. Ouais.
Bien, ici, au Québec, on a la chance d'avoir des rivières, un réseau hydrographique qui nous a permis de développer des barrages. Okay? Donc, on a su saisir, il y a très longtemps, ces opportunités-là. Il y a plein de pays dans le monde où ils n'ont pas ce réseau hydrographique-là, ils n'ont pas cette possibilité-là. Le solaire, ça, il fait soleil quand même un peu partout.
Partout sur la planète,
oui. Oui, effectivement. Bon, peut-être moins dans certaines périodes au pôle Nord et au pôle Sud.
Il y a des coûts, par exemple, assez élevés associés à ça, là, les panneaux photovoltaïques, l'entretien...
Le stockage.
Oui, effectivement. Il y a des coûts élevés, mais il y a les coûts. Tu sais, si tu considères les coûts de ne pas prendre action, c'est ça un des éléments qui est difficile à comptabiliser dans tous ces coûts-là, c'est les coûts de ne pas prendre d'action. C'est les coûts des changements climatiques, justement, dans, au niveau individuel. Tu sais, souvent, avec les événements météo plus extrêmes, on se dirige de plus en plus vers des situations où nous, comme individus, on va avoir davantage de difficultés à s'assurer pour ce type d'événement météo-là.
Certains endroits, je pense que c'est déjà le cas. Là. Par exemple, je pense sur les côtes, par exemple, certains endroits en Floride, je pense que c'est rendu presque impossible à assurer. Ou vraiment au sud des États-Unis, où il y a beaucoup plus d'ouragans, d'inondations, de choses comme ça, ça commence là-bas déjà. Là.
Exact. Donc, il y a des coûts sociétaux également d'émettre des gaz à effet de serre. Tu sais, davantage de certaines maladies. Il y a certaines maladies qui vont se propager davantage dans des endroits où ils ne se... ces maladies-là n'étaient pas présentes. Donc, davantage d'enjeux de santé respiratoire, des choses comme ça. Donc, il y a un coût sociétal aussi associé à ça. Et ça, c'est très difficile. Vous me demanderiez de faire des calculs. J'aurais de la difficulté à vous donner des chiffres. J'ai cru voir...
Christian, peux-tu nous faire un calcul?
Non, merci, pas ce matin. Je vais vous revenir.
Oui. Jonathan, il y avait un commentaire qu'on voulait soumettre aussi à Christian, là.
Oui, bien, en fait, on parle d'autres endroits puis de comment c'est pas nécessairement la même le même défi partout. Donc, si on regarde, là, si on veut comparer un peu avec les autres pays, donc quelqu'un, il y a Sophie qui nous disait « Net zéro, c'est encore une belle lubie qui fait couler le Québec. Nous avons l'électricité la plus propre. La Chine vient d'abandonner cet idéal de l'accord de Paris et nous, 8,5 millions de cons, on va engloutir des milliards quand le reste du monde lève à peine le petit doigt. » Donc, il y a évidemment les efforts qui sont mis dans tous les endroits dans le monde ne sont pas nécessairement les mêmes. Puis il y en a qui se demandent, ça vaut-tu vraiment la peine que nous, au Québec, on fasse ces efforts-là si des pays comme la Chine ne les font pas?
Mais ça, puis on entend souvent cette raison-là ou cette excuse-là, ou un peu, c'est une réaction de peut-être de découragement, de dire que nous, on a beau faire beaucoup d'efforts, si les autres n'en font pas, ça ne sert à rien. C'est pas totalement faux. Faut vraiment que tout le monde fasse les efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent faire leur transition énergétique. Mais si tout le monde attend, si chaque pays, si chaque société attend que l'autre fasse sa part, je veux dire, ça
dans
fonctionnera
le fond, c'est
pas.
Ça. Si tout le monde se dit, moi, je vais être le dernier à le faire. Quand tous les autres vont l'avoir fait, moi, je vais le faire. C'est pas une stratégie gagnante. T'sais.
Exact.
C'est comme dans une game de hockey, si tu dis, moi, quand les autres vont tout avoir fait un but, je vais en faire un.
Oui, et je vais commencer à patiner plus fort à la troisième période. Et il est peut-être trop tard, là, mais... faut aussi voir ça comme des opportunités. Oui, ça demande des efforts, mais c'est également des opportunités. Le fait d'être dans une société, dans une province, justement, où nos sources d'énergie sont de sources renouvelables, bien, c'est des opportunités pour plusieurs entreprises.
On peut avoir un rôle de leadership aussi, parce
Absolument.
Que les gens regardent qu'est-ce qu'on fait, comme, hey, regardez-en ça, le Québec, ils sont bons, ça a l'air à marcher de leur bord. On a des... Puis en plus, justement, ça nous permet d'aider nos voisins. Par exemple, justement, en exportant chez nos voisins, il y en a qui disent, hey, mais là, pourquoi on exporte si on a besoin de faire la transition ici? Mais la transition, elle n'arrête pas à la frontière. Tu sais, les gaz à effet de serre, quand on exporte chez nos voisins, puis qu'eux peuvent fermer des centrales au gaz,
Absolument.
Dans un sens... globalement, c'est positif.
Ça contribue tout autant parce que émettre une tonne de gaz à effet de serre, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou en Chine, ça a les mêmes impacts globalement. Donc, oui, le fait qu'on fasse des exportations, que l'on contribue dans nos marchés voisins à ce qu'ils produisent leur énergie, leur électricité, de moins de façon basée sur les combustibles fossiles, ben on contribue aussi avec nos exportations à la transition énergétique et à la lutte au changement climatique.
Christian, il y a une particularité au Québec qu'on n'a peut-être pas dans d'autres provinces canadiennes, c'est qu'ici, les maisons, à peu près à 80% sont chauffées à l'électricité, ce qu'on ne retrouve pas du côté de l'Ontario où on utilise peut-être davantage le gaz, j'imagine?
Oui, effectivement. D'autres provinces, puis ça a fait beaucoup couler d'encre le dernier mois où on voyait que du côté des provinces maritimes, eux, le chauffage repose davantage, non pas sur le gaz naturel, mais sur l'huile à chauffage.
Le mazout.
Le mazout, effectivement. Ailleurs, dans d'autres provinces, cette transition-là, au niveau du chauffage résidentiel, effectivement, ça va être davantage du côté de gaz naturel.
Donc, En quelque sorte, on a déjà fait une première partie de la transition.
Oui, exactement.
Mais on peut s'améliorer de ce côté, de ce côté-là, parce que beaucoup de chauffage électrique au Québec, c'est encore sur des plaintes électriques. Exact, oui. Mais on peut aller plus loin avec des thermopompes où là, on va avoir l'électricité, mais ça va être encore plus efficace. Puis on va dégager des surplus, si on veut, pour pouvoir décarboner d'autres choses.
La portion mieux consommée de notre énergie.
Absolument. Absolument.
Et on pourrait aussi améliorer l'étanchéité des bâtiments. Il y a beaucoup de gens qui chauffent énormément parce que leurs maisons sont mal isolées.
Mal isolées.
Puis il n'y a rien dans le code du bâtiment qui oblige les nouvelles constructions
exactement.
À être.
Exactement. Donc, les nouvelles constructions, c'est ceux-là où c'est le plus facile de faire mieux. Hein, c'est justement d'avoir un code de construction qui va nous inciter à avoir des meilleures mesures d'efficacité énergétique, d'isolation.
Là, je pense qu'il y a eu des annonces récemment quand même sur des évolutions là-dessus où on poussait plus loin le code du bâtiment pour aller améliorer justement l'efficacité énergétique des bâtiments. Ça, j'ai vu ça passer dans les derniers
Effectivement,
mois.
Effectivement, le défi, c'est ce qui existe déjà.
Oui, effectivement. Donc, de rénover l'existant, c'est pas évident.
Exactement. Lorsqu'on est propriétaire, c'est un choix qu'on peut plus facilement faire. Mm-hmm. Dans la région de Montréal, il y a quand même une bonne partie de la population qui est à logement, qui sont locataires. Mm-hmm. Donc, la décision, les choix d'efficacité énergétique et de mieux isoler sa maison, ça lui revient pas à lui ou à elle, c'est au propriétaire. Alors, c'est effectivement un défi important d'amener ces anciens bâtiments-là à mieux consommer.
J'ai un petit quiz à vous soumettre, les amis.
Que moi dois répondre ou tout le monde peut
tout
répondre?
Tout le monde.
Ah, merci. En fait, on va se faire clencher par Christian sur le quiz.
C'est ça, donne-nous une chance, puis après...
Tu t'attends comme 35 secondes à peu près pour qu'on réponde avant.
Dans notre publicité sur la transition énergétique avec l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis, on a dévoilé ça le 14 novembre 2023. Donc, l'entraîneur-chef utilise une de ses phrases devenues célèbre. Complétez la phrase, s'il vous plaît. Pour passer des énergies polluantes à de l'énergie propre, ça prend un bon, je vais vous donner un choix, joueur de centre, lunch après la game,
ben oui.
Directeur-gérant ou... plan de match?
Bien, honnêtement, je connais la réponse, mais moi, je pense que ça prend quand même un bon lunch.
Oui, surtout le lunch, mais c'est possible que ce soit un plan de match.
Ouais, c'est possible.
Très
mais
possible.
Mais aussi, si je me rappelle bien aussi, il a dit que c'est important que tout le monde joue sa game
dans la game. Game.
Tout exactement. Tout à fait.
Même les gros joueurs.
Ouais. Même les gros joueurs, exactement. Et les petits joueurs peuvent aussi faire...
Effectivement.
T'es bon, finalement, Christian?
Mais justement, les gros joueurs...
J'écoute la télé. Même si je ne suis pas un fan de hockey, j'écoute la télé.
Jonathan avait un peu vendu mon autre question. C'était... il y avait cette phrase célèbre, donc il faut que tout le monde joue...
Sa game dans la game,
mais moi, j'avais d'autres options pour vous. Joue avec son thermostat ou avec soi-même dans la douche, mais à l'eau froide.
Yes!
Voilà. Moi, je vais pour cette réponse-là.
Un grand classique.
La plus populaire.
Oui, tout à fait.
Estricité.
Voilà.
Alors, merci beaucoup, Christian Turpin, d'être venu discuter avec nous.
Avec plaisir.
Quant à vous, surveillez les autres sujets de cette série Balado. Il y a plein de sujets comme ceux-là qui vont vous intéresser, assurément.